L'intérêt en utilisant des matériaux de réemploi, bah, c'est qu'on arrive à gommer ça, et à se dire bah, ces matériaux, ils sont toujours, ils sont immédiatement disponibles, donc on va pouvoir démarrer votre réparation de sinistre immédiatement.
Bienvenue dans Aubercaille, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline, et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous. Et cela commence dès maintenant. C'est un plaisir d'accueillir aujourd'hui Romain Garcini. Bonjour Romain.
Bonjour Caroline.
Alors toi, tu es cofondateur de StockPro, une start-up qui révolutionne l'industrie de la construction. Partie de ton expérience en tant qu'entrepreneur en maçonnerie, tu as identifié un problème majeur, le gaspillage de matériaux non utilisés sur les chantiers. Tu as créé un système ingénieux pour inciter tes équipes à l'époque à réutiliser ces matériaux, ce qui a donné naissance à l'idée de StockPro en 2018. Cette solution digitale développée avec ton cofondateur Stéphane apporte une véritable solution dans le secteur. Pour mieux comprendre StockPro, c'est une application mobile permettant de digitaliser les matériaux en scannant leur code-barre. Cela permet aux entreprises de suivre en temps réel les mouvements de leur stock, anticipant ainsi les besoins pour les futurs chantiers. Cette digitalisation favorise deux formes de réemploi. D'une part, la réutilisation interne où les entreprises utilisent les matériaux déjà en stock pour leurs propres besoins. Et d'autre part, la possibilité de vendre ces matériaux à des tiers, professionnels ou particuliers, à préciser, lorsque le réemploi interne n'est pas envisageable. Est-ce que c'est tout bon déjà pour cette présentation de StockPro ?
Je crois qu'on n'a jamais aussi bien présenté notre entreprise, donc je te félicite, c'est extrêmement bien résumé.
Bon ben, génial. Donc du coup, forcément, le sujet aujourd'hui, c'est le réemploi des matériaux dans le domaine de la construction. Avec un accent particulier sur les questions d'assurance et de litige, on va aborder la sécurité des matériaux de réemploi en relation avec les assurances, ainsi que leur implication en cas de sinistre. Est-ce que tu es prêt à partir là-dessus, Romain ?
Je suis complètement prêt, Caroline.
Complètement prêt, c'est parfait. Bon, bah écoute, déjà, on va faire quand même notre petit jeu brise-glace. Tu m'as préparé deux affirmations, une vérité, une fausse, pour commencer un peu cet épisode et se mettre directement dans le bain.
Ok, je commence par celle que je souhaite, parce que toi, tu dois deviner, hein, c'est bien ça.
Alors, tu peux me donner les deux et à moi de dire laquelle je pense vraie, laquelle je pense fausse.
C'est parti. Alors, première affirmation, les matériaux éligibles au réemploi ont une TVA de 10% au lieu de 20% pour les produits issus du circuit classique.
Ok.
Ma deuxième affirmation, si on utilisait 100% des matériaux produits par l'industrie du BTP, on diminuerait instantanément la production de déchets de 7%. Il y a un peu de chiffres, hein. Je suis désolé, mais je trouvais que c'était important pour ces affirmations.
C'est malin de m'avoir sur les chiffres, c'est malin. Alors... Je crois que ce sera la première qui va être vraie au niveau de la TVA. Est-ce que c'est ça ?
Eh bien, ce n'est pas ça. Voilà, la TVA sur les matériaux de réemploi est de 20%. Et je suis content que tu fasses cette réponse parce que ça me permet de... Moi, c'est un de mes nombreux combats. Je milite pour une TVA plus incitative sur les matériaux issus du réemploi. Ça permettrait vraiment d'inciter encore plus les gens à adopter ce type de consommation. Donc malheureusement, pour l'instant, la TVA est toujours la même que sur les produits issus du circuit classique.
Okay. Bon, du coup, t'as trouvé que... fort que la TVA soit plus basse.
Voilà. Du coup, t'as trouvé l'autre affirmation,
Du coup, effectivement, c'est l'autre. Donc, t'as réussi à m'avoir. Bravo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces deux phrases? Donc, du coup, sur la TVA, tu nous l'as expliqué, mais sur la deuxième?
Alors, la deuxième phrase, en fait, c'est vraiment la genèse de notre projet ou le cœur de la mission. C'est-à-dire que le constat que j'avais fait, que tu as très bien expliqué, des matériaux gaspillés sur les chantiers que j'ai constaté quand j'étais entrepreneur, à grande échelle, quand on a voulu s'attaquer à ce projet avec Stéphane, à grande échelle, on a essayé de mesurer ce que le gaspillage représentait dans l'industrie du BTP. Et c'est là où on a vraiment pris conscience des énormes chiffres sur le gaspillage. Donc le gaspillage en France, c'est 5 milliards d'euros. Le gaspillage de matériaux neufs, hein, 5 milliards d'euros par an. Et c'est ce qui représente 7% de la production de déchets du BTP. Donc on présente toujours ces deux chiffres et après on dit, en fait, ça veut dire que si on utilisait 100% de ce que l'industrie produit, ben mécaniquement, rien qu'en changeant notre usage, en fait, mécaniquement, on diminuerait la production de 7% de déchets. Et il faut savoir quand l'État a fixé comme orientation qu'en 2030, on baisse la production de déchets de BTP de 5%. Ce qui veut dire que, en fait, on a tout de suite la possibilité de le faire, rien qu'en modifiant un peu nos usages et en utilisant 100% de ce qui est produit. C'est pour ça que j'ai choisi cette phrase, parce que je trouve qu'elle pose vraiment bien le débat.
Carrément, elle est assez parlante. Trop bien. Trop bien, merci pour cette mise en abîme sur le sujet. J'aimerais bien quand même qu'on revienne aux bases pour que on ait vraiment tout au clair pour les auditeurs. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est un matériau de réemploi ? Comment ils peuvent être utilisés dans la construction ? Peut-être la différence entre réemploi, recyclage et réutilisation ? Peut-être ça mettra un peu la base là-dessus.
Bien sûr, je pense que c'est un très bon point de départ parce que il y a dans le réemploi finalement ça renferme beaucoup de notions diverses et variées. Nous quand on en a parlé dès le départ, on est sur le sujet du réemploi de matériaux neufs, mais bien évidemment le réemploi ce n'est pas que le matériau neuf. D'ailleurs parfois il y en a beaucoup qui nous disent que ce n'est pas du réemploi. Donc si on repart de la définition, le réemploi c'est donner un autre usage. Enfin ça peut-être de donner un autre usage à un matériau. Donc on peut utiliser par exemple des bouteilles plastiques et puis le réemploi de ces bouteilles plastiques, ça peut devenir du sac. Donc ça, c'est une forme de réemploi où on a transformé le matériau. Le réemploi, ça peut être un matériau qui a été réparé ou reconditionné, c'est-à-dire qu'il avait son usage n'a pas changé, sauf qu'il avait il arrivait en fin d'une première vie et on a changé une partie de ses composantes. Ça peut être de 5 à 20-25% et on remet ce matériau dans le circuit. Ça c'est du matériau reconditionné. Le réemploi, ça peut être du réemploi de seconde main, donc c'est un matériau qui a eu une première vie puis qui en a une seconde sans nécessairement qu'on opère sur ce matériau un changement. C'est plus un deuxième usage un peu différent, un peu détourné de son usage premier. Et puis le réemploi, bah, ça peut être des matériaux neufs, donc des matériaux qui n'ont pas eu une première vie en fait. C'est toute la complexité et parfois ça demande beaucoup de pédagogie. Imagine que tu as un matériau neuf que tu trouves dans une benne, dans une poubelle, ben, c'est un déchet. Parce que il allait partir vers la déchetterie. Si tu le sors de la poubelle ou de la benne, ça devient un matériau neuf parce que il a pas eu de première vie. C'est tout ce flou nous sur lequel on travaille, on se bat activement parce qu'on considère que quand on a sorti ce matériau de la benne et qu'on lui donne une seconde première vie, eh ben c'est une opération de réemploi. Voilà un peu toutes les formes que tu peux avoir de réemploi.
Ouais. Il y a une réutilisation finalement. Et que c'était destiné à la benne, quoi.
Exactement. Okay. Alors pourquoi nous on s'est concentré sur le matériau neuf, parce qu'on pourrait dire mais en fait on pourrait tout de suite opérer une action dans les différentes formes que j'ai décrites juste avant. Moi je viens, comme tu l'as dit, je viens du monde du BTP, j'étais entrepreneur et aujourd'hui faire modifier les comportements, enfin inciter à la modification des comportements en commençant par des matériaux de seconde main, c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de freins, beaucoup de difficultés pour les entrepreneurs, notamment au niveau de l'intégrité des matériaux, de la garantie et bien évidemment des assurances. On va en parler après. Et du coup, on s'est dit pour que on puisse déjà apporter une réponse à toutes ces objections du réemploi qui sont nombreuses, eh ben il faut qu'on commence notre mission par des matériaux assez simples qui permettent de répondre à toutes ces objections. C'est pour ça qu'on a fait le choix des matériaux neufs. Et déjà avec des matériaux neufs, on a beaucoup de difficultés à faire évoluer les mentalités de cette industrie qui est assez lente à faire bouger.
Oui, il y a des exigences qui font que c'est peut-être un peu plus dur dans les mœurs à faire évoluer, quoi.
Oui, tout à fait.
Avant d'aller sur le plan, justement, qualité et sécurité des matériaux, j'aimerais quand même qu'on repose les bases. C'est quoi vraiment l'avantage ou les inconvénients, les avantages ou les inconvénients d'utiliser ce genre de matériaux? Qu'est-ce que ça apporte?
Alors, les inconvénients, commençons par les inconvénients. Les inconvénients,
Allez.
c'est que il n'y a pas nécessairement la quantité que l'on souhaite, puisque on ne met en vente que ce dont on ne veut plus. Donc, quand on est acheteur et quand on a besoin, on n'a pas ce confort d'avoir une profondeur de quantité, je dirais infinie entre guillemets, et un catalogue très diversifié. C'est la promesse d'ailleurs d'un distributeur professionnel. Un distributeur professionnel, il garantit à ses clients un catalogue de référence dans le temps et des quantités illimitées. C'est tout l'inverse dans leur emploi. On ne maîtrise pas le catalogue, donc c'est vraiment des achats d'opportunités et on n'a pas non plus la possibilité de s'engager sur une quantité à livrer. Donc ça, je dirais que ça, c'est les inconvénients. Les avantages, il y en a plein. Les avantages, c'est que la disponibilité immédiate des produits.
Oui.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de pénurie de matériaux. On a vu qu'avec les conflits géopolitiques, le Covid, la chaîne logistique, finalement, elle n'était pas si robuste que ça. Et quand on fait venir des produits de Chine, on peut se retrouver finalement en rupture de production parce que il n'y a plus la possibilité de faire venir les produits. Le gros avantage du réemploi, c'est que le matériau, il est là. Il est sur le territoire français, il est dans un stock, il est dans un dépôt, il est présent. Et donc, en 24 heures ou entre 24 heures et quelques jours, on peut le récupérer. Ça, c'est un très, très gros avantage. Évidemment, le prix, puisque comme on est sur des matériaux de seconde, première vie, il y a toujours une décote au niveau du prix. Je dirais que nous, sur notre plateforme, la décote moyenne qu'on observe, c'est 67%. 67% par rapport au prix public.
C'est quand même
donc
assez...
ça fait c'est quand même très très intéressant.
C'est assez conséquent
et puis
quand même,
ouais. Et puis l'autre avantage et non des moindres pour recoller à notre sujet, c'est la garantie, c'est-à-dire que comme le matériau est neuf, il y a cette garantie du matériau qui ne met pas à risque finalement l'entreprise qui va mettre en œuvre le matériau.
Ok, bah parfait, comme ça j'ai ma transition. Du coup, comment on s'assure que les matériaux de réemploi sont sûrs et conformes aux normes de sécurité? Au niveau de la qualité, au niveau de la sécurité du matériau, comment on peut s'en assurer et se dire « Ok, c'est bon, je peux y aller, les yeux fermés, tout est bon
?» Ça, c'est une très bonne question et c'est très complexe finalement. Parce que ça dépend, c'est une chaîne, hein, donc ça dépend, faut vraiment sécuriser tous les maillons de la chaîne. C'est aussi la raison pour laquelle nous, on a un sourcing qui est 100% professionnel, 100% B2B. En tant que particulier, je ne peux pas mettre mon matériau sur StockPro. Je peux le mettre sur Le Bon Coin, par exemple, mais je ne peux pas le mettre sur StockPro. Parce que nous, dans notre promesse, quelque part, on veut s'assurer de la traçabilité du matériau, de sa qualité et des garanties associées. Alors, comment ça marche, la garantie d'un matériau, si j'essaie de donner un peu quelques notions? Dans un circuit de distribution traditionnel, par exemple, un Point P, un Raboni, un Sonépar, voilà, des distributeurs qui sont 100% B2B, eux achètent des produits auprès de fabricants. Les fabricants livrent les produits chez le distributeur. La date de garantie de ces produits démarre à la date de livraison du matériau chez le distributeur. Et la garantie, elle est de 2 ans. Ça veut dire que quand on achète le matériau chez ce distributeur, pendant 2 ans, il est garanti. Si un de ces distributeurs, par exemple, met ce matériau en vente sur notre plateforme parce qu'il le considère comme obsolète et qu'il veut s'en débarrasser et que plutôt que de le détruire comme il le faisait avant, il décide de lui offrir une seconde première vie, eh ben on aura comme garantie sur ce matériau la période restant à courir. Donc s'il est mis en vente sur notre plateforme avant les 2 ans, il restera une garantie à choix. Si en revanche c'est postérieur aux 2 ans, eh ben là le produit entre guillemets, n'est plus garantie. Et c'est là où nous, on prend le relais et on est en train de travailler avec une compagnie d'assurance pour proposer, quelle que soit la date finalement de l'âge du produit, on va proposer une extension de garantie de 12 mois sur la totalité des, sur la totalité des produits. Ça, c'est vrai pour les distributeurs. Pour les fabricants, légalement, les fabricants, ils sont toujours obligés de garantir leurs produits. Donc, si un fabricant vend un produit sur notre plateforme, il y a toujours une garantie associée. Et puis la troisième source, c'est là où on a commencé, c'est vraiment le berceau de notre histoire, c'est l'entreprise de construction. Donc quand l'entreprise de construction vend un matériau, bah c'est, ça suit à peu près la même règle que pour le distributeur. Il faut qu'on connaisse la date d'achat. La date de livraison de ce matériau chez le distributeur pour voir s'il y a une garantie qui reste à courir. Et ça, c'est une information qui est extrêmement compliquée à obtenir. C'est la raison pour laquelle on a travaillé sur ces extensions de garantie pour se, en fait, s'affranchir de cette contrainte qui, encore une fois, est très, très complexe à obtenir. Et ce qui est assez rigolo et paradoxal, c'est que quand un client entreprise va chez son distributeur, finalement, il lui demande jamais cette date de garantie. Mais en revanche, quand on est sur le réemploi, tout de suite,
c'est un suivi administratif
qui est pas du tout proposé. Mais en revanche, en réemploi, je sais pas pourquoi, il y a tout de suite ce réflexe garantie et assurance qui survient parce que je pense que dans la tête des gens, le réemploi très souvent des consommateurs c'est associé à un produit ancien, un produit obsolète, un produit défaillant. Alors qu'on le voit bien, il y a énormément de matériaux ou de produits qui sont en réemploi et qui sont aussi, enfin qui ont exactement la même intégrité qu'un produit issu du circuit classique.
Il y a un vrai biais psychologique aussi, je pense, là-dessus à travailler sur le principe du réemploi, que ce soit même du réemploi lié à des particuliers où on réutilise des matériaux. Si le matériau n'a pas été touché dans sa structure ou choses comme ça, il a tout autant de performance qu'un autre matériau, quoi.
Oui, complètement. Je pense que le réemploi tel qu'on le considérait il y a encore 15 ans, il y avait un petit côté un peu péjoratif sur le réemploi. Et là, aujourd'hui, le réemploi, je trouve qu'il a changé de dimension et on revient à des usages un peu différents, des pratiques différentes. Où on se dit tiens en fait ça renvoie à sa manière de consommer, sa manière d'être plus raisonnable, et du coup il y a une dimension qui va au-delà du produit en lui-même, quoi. C'est plus un comportement, je dirais maintenant, le réemploi. Donc il a beaucoup plus de vertus qu'il pouvait en avoir dans sa définition qui a une quinzaine d'années.
Qui avait quelques années, oui, complètement. Du coup, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres biais pour garantir la sécurité et la qualité des matériaux de réemploi que la date de garantie? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de se fier à ça ou pas?
Oui, il y a les normes, normes NF, normes CE. C'est-à-dire que quand un produit est vendu, il doit toujours être aux normes. Je prends par exemple les tubes fluo. Aujourd'hui, un tube fluo, c'est interdit. On a changé la norme pour des raisons de législation. Donc, quand on va dans des bureaux, des anciens bureaux qui ont des tubes fluo, normalement, on n'a plus le droit d'avoir des tubes fluo. Il a été démontré que ça abîmait les yeux des personnes qui étaient dans ces environnements. Donc, le tube fluo peut toujours être neuf. Il n'a jamais servi. Il n'empêche qu'il est plus il est plus apte à la vente ou il est plus utilisable. Donc ça naturellement ça peut pas être vendu. Tout ça c'est des filtres qu'on met en place pour évidemment proposer que des produits qui répondent aux normes en vigueur, soit aux normes NF, soit aux normes CE. Ça c'est le premier point. Après, on a parlé de la date de garantie qui démarrait au moment de la date de livraison du matériau par le fabricant chez le distributeur. Il y a une autre date pour certains autres produits, c'est la date de DLU. Donc c'est la date limite d'utilisation, okay. Parce que pour certains produits, notamment issus de la chimie du bâtiment, c'est un peu comme
l'école.
Les yaourts, hein. Voilà, les cols, ils ont une date, donc on est tenu de vérifier la date, et bien évidemment, on ne peut pas vendre un produit dont la DLU est expirée. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant, parce que nous, on a mis en place des vrais partenariats hyper vertueux avec des clients, sur justement la DLU. Quand la DLU passe un certain seuil, le produit n'est plus vendu, n'est plus vendable dans un circuit de distribution traditionnel parce que ça prend trop de temps. Mais en revanche, on peut les mettre sur notre plateforme à des prix hyper attractifs, et ce qui permet une rotation rapide de ces matériaux et d'éviter de les détruire, puisque quand la DLU est, a expiré, il n'y a plus beaucoup de solutions que la destruction de ces produits.
Ok, trop bien. Donc, deux dates en fonction et les normes qui peuvent servir aussi un petit peu de garantie par rapport à ces matériaux de réemploi.
Exactement.
Pourquoi ça peut être intéressant, je sais qu'on en a discuté un peu, mais ça peut être intéressant d'utiliser des matériaux de réemploi pour réduire les coûts de construction quand il y a un sinistre, quand on a un litige, quand il s'est passé quelque chose pour nos logements?
Alors, pourquoi ça... Déjà, je dirais que la première chose, c'est encore une fois, philosophiquement, le réemploi est toujours l'option d'abord à privilégier. Aujourd'hui, ce n'est pas encore dans nos réflexes. Hein. On est
dans
encore très consommateurs irraisonnés. Et bien sûr, il y en a qui ne le sont pas, mais on n'a pas du tout encore ce réflexe de commencer par étudier une option en réemploi plutôt qu'une option circuit classique. Pourquoi ça se prête bien, le réemploi, au sinistre et à la réparation de sinistre? Parce que généralement, c'est des petites surfaces, des petites quantités. Et comme je te l'ai dit au début de notre échange, généralement dans le réemploi, on n'a pas des énormes quantités. Donc autant on ne pourra jamais faire ou rarement faire un chantier neuf avec des matériaux de réemploi parce que pas assez de quantité, autant sur une réparation de sinistre, ça s'y prête parce que en général, c'est des petits espaces et c'est des petits sinistres. Parce que, je reviens là-dessus, c'est un point hyper important, il y a une disponibilité des produits immédiate. Quand on est dans un processus de gestion de sinistre, généralement, c'est pas là où on se sent le mieux, c'est pas là où il y a la meilleure énergie, c'est pas là où il y a les meilleures relations entre les assureurs et le souscripteur, parce que on est tendu, on a envie que son sinistre soit réparé, tout
ça
prend du temps, ça évite, il y a les experts qui doivent passer, etc. Donc quand on dit bah c'est bon, on se met d'accord sur une somme, mais que en fait finalement vous pourrez l'entreprise pourra intervenir que dans 4 ou 5 mois, parce qu'il y a un temps de livraison des matériaux qui est incompressible, bon, ça renforce un peu la rancœur et la difficulté relationnelle. L'intérêt en utilisant des matériaux de réemploi, c'est qu'on arrive à gommer ça, et se dire, ces matériaux, ils sont toujours... ils sont immédiatement disponibles, donc on va pouvoir démarrer votre réparation de sinistre immédiatement. Le deuxième gros avantage, au-delà du prix, parce que finalement il y a une prise en charge, donc pour quelqu'un qui subit un dommage, je dirais que l'argument prix n'est pas nécessairement...
le premier point.
Le premier point, exactement. Mais, mais en revanche, on peut lui dire, avec un matériau de réemploi, on peut upgrader la qualité du matériau. Si je prends l'exemple du carrelage, par exemple, au lieu d'avoir un carrelage un peu simple, graisse et rame à 25€ du mètre carré, pour le sans supplément de prix, on peut avoir un carrelage beaucoup plus qualitatif à 75, 80, 90€ le mètre carré, parce que justement, il est issu du réemploi. Donc, ça permet au souscripteur qui subit un dommage de pouvoir upgrader quelque part la qualité de ces matériaux. Et ça, c'est un avantage qu'on peut lui offrir. Et dernier avantage, je disais que le prix, c'était pas nécessairement une motivation. Au moment du sinistre, non, au moment de la signature du contrat. Parce que l'idée, c'est qu'au moment de la signature du contrat, on dise au souscripteur, En cas de sinistre, si vous acceptez qu'on puisse vous proposer des matériaux de réemploi ou utiliser des matériaux de réemploi pour réparer votre sinistre, de toute façon, c'est une compagnie d'assurance, donc le matériau va être garanti. Il n'y a pas de possible vice caché en utilisant des matériaux de réemploi. Et bien à ce moment-là, on vous octroie une baisse de la franchise ou une baisse de la prime d'assurance parce que vous acceptez cette option. Et du coup, je dirais que le boni ou le goodwill sur le prix, il en bénéficie à la signature du contrat. Dans les sinistres, il y a trois typologies majeures de sinistres. Ça oui. Vient pas de moi, hein. Ça vient des compagnies d'assurance. C'est l'étanchéité, le carrelage et la menuiserie. Voilà. Ça, c'est les 80%.
C'est les trois grands cas d'usage.
Et exactement, voilà. Ouais. Donc, c'est les grandes familles de sinistres. Donc, tu vois que nous, dans tout ce qu'on propose comme produit, on a des produits qui peuvent répondre. Alors, pas toujours, évidemment. Hein. C'est là, encore une fois, le côté aléatoire, le caractère aléatoire du réemploi, mais qui peuvent répondre à ces trois catégories parce que, voilà, on a de l'étanchéité, on a du carrelage et du sol et on a également des menuiseries. Mais déjà, si on arrive à répondre à une partie de ces besoins lors de sinistres, on aura fait un premier pas sur l'usage des matériaux de réemploi qui est fait par le consommateur. Donc il y a un gros sujet sinistre et assurance parce qu'il y en a malheureusement beaucoup chaque année. Donc ça permet vraiment d'avoir des opportunités de réutilisation.
D'ouverture vers le réemploi.
Ouais, exactement.
Complètement. Alors, de ton expérience et un petit peu des discussions que tu peux avoir, comment c'est perçu aussi côté assureur sur la qualité, la sécurité des matériaux? Est-ce que c'est facilement accepté? Est-ce que c'est en voie de changement? Est-ce qu'il y a des discussions qui sont ouvertes ou pas? Ou est-ce qu'il y a déjà des choses de mise en place?
Alors, il y a beaucoup de réflexions. Moi, j'interviens pas mal auprès des compagnies d'assurance. Alors, pour l'instant, j'interviens un peu comme speaker, mais j'aimerais bien intervenir plus comme doer. Mais c'est un bon départ. Je pense qu'ils ont complètement conscience du sujet. Après, on va pas demander à un assureur de prendre des risques, hein. Donc, c'est pas possible, c'est pas notre nature. On en est un peu là. Aujourd'hui, faut savoir que quand tu es une entreprise de BTP et que tu souscris ton contrat d'assurance, donc ta décennale, puisque on a une spécificité nous en France, c'est que on a un contrat d'assurance décennale, donc on assure les ouvrages que l'on construit pendant 10 ans. Je crois qu'on est un des seuls pays en Europe à avoir cette obligation-là. Exactement. Quand tu utilises un matériau de réemploi dans ton chantier, cette utilisation n'est pas considérée comme une technique courante. C'est une technique non courante. Ça veut dire que tu dois déjà faire une déclaration auprès de ton assurance pour dire sur ce chantier, je vais utiliser tel et tel matériau en réemploi. Et ça, c'est considéré comme technique non courante. Autant te dire que ça, déjà, de base, c'est un frein qui rebute, et c'est normal, hein, beaucoup, beaucoup d'entreprises de BTP. Ce qui est très étonnant, c'est que, je prends souvent cet exemple des tuiles dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, quand un couvreur fait un chantier, il va chercher des anciennes tuiles qu'il a sourcées sur des vieux bâtiments, il va les récupérer et il va les mettre sur son nouveau bâtiment. Et ça, ça existe depuis tout temps, c'est considéré comme une technique courante. On a jugé que c'était pas du réemploi. Pour autant, prendre une ancienne tuile sur un toit d'une bergerie et puis pour la replacer sur une autre ferme, ça reste du réemploi. Donc, et c'est là où on voit que les choses sont pas complètement claires.
Et des incohérences.
Et, exactement. Donc, le premier travail que va devoir faire l'ensemble du secteur des assurances, c'est de revoir un peu ces techniques non courantes pour intégrer le réemploi dans le contrat classique d'assurance décennale. Déjà ça, ça va être un verrou qui va sauter et qui va permettre à l'ensemble des entreprises, de naturellement, sans se poser la question de « Ah, est-ce que si j'utilise ça comme matière de réemploi, je suis couvert ou pas couvert par ma compagnie d'assurance si déjà elles ont pu à se poser cette question, on aura fait un premier pas. Exactement. Donc ça, je dirais que c'est sur les travaux de neuf et de réhabilitation. Donc c'est la première grosse partie que couvrent les assurances. Puis après, on a la partie sinistre dont on a parlé. Donc avant qu'il y ait un sinistre, il faut d'abord faire les travaux en neuf en réhabilitation. Et après, évidemment, tu peux, pas toujours, mais tu peux connaître un sinistre. Et là, je dirais que pour que ça fonctionne, il faut mobiliser l'ensemble des acteurs, évidemment les compagnies d'assurance, et je suis pas complètement convaincu qu'il y en a une qui va bouger sans que toutes les autres bougent. J'ai vraiment l'impression que il faut que l'ensemble de la profession décide de le faire, et dans ces contrats, c'est ce que je te disais sur les avantages, intègre cette nouvelle pratique dans le contrat et dans l'offre commerciale. Et puis ensuite, il faut embarquer tous les économistes qui font en fait, et les experts qui interviennent sur le lieu du sinistre pour proposer à chaque fois cette alternative là. Et puis le dernier maillon, c'est l'entreprise, parce que l'entreprise forcément il faut aussi qu'elle ait un intérêt à utiliser des matériaux de réemploi, parce que si elle n'est pas d'une manière ou d'une autre intéressée ou incitée à le faire, bon, elle va rester sur ses basiques et sur ce qu'elle sait faire, et elle va aller chercher des matériaux issus du circuit classique.
Oui, on va tous chercher plus ou moins la simplicité, donc il faut rendre le circuit le plus simple possible de base, quoi.
Exactement. Ça existe dans d'autres secteurs, hein. Par exemple, dans le secteur automobile, aujourd'hui, quand tu as un sinistre, j'espère que ça t'est pas arrivé, mais si c'était arrivé, tu l'as peut-être expérimenté.
Je croise les doigts, non.
T'as un sinistre avec moi, ça m'est déjà arrivé, un sinistre avec mon véhicule. Ta compagnie d'assurance dit bah voilà, si vous utilisez par exemple sur l'aile qui a été un petit peu cabossée, si vous utilisez une aile issue d'une casse ou qui provient d'un circuit réemploi et pas directement du fabricant, ça vous avez une décote de X sur votre franchise.
Sur ça marche le malus.
Sur le malus, oui. Exactement. Et ça marche très très bien. Donc, c'est des pratiques qui existent déjà au sein de compagnies d'assurance. Donc, elles sont tout à fait applicables. Alors, il y a des spécificités métiers, évidemment,
qu'il faut prendre
en compte, mais elles sont tout à fait applicables à d'autres secteurs.
Et c'est là où c'est peut-être intéressant, justement, d'aller voir ce qui se fait dans d'autres secteurs et de rassembler un peu les pratiques et de les adapter, comme tu dis, puisqu'il y a des spécificités métiers. Mais c'est là où il y a un vrai débat à avoir pour sensibiliser tout le monde, quoi. Complètement. Est-ce qu'il y a des choses ou des bonnes pratiques en tant que particulier justement à penser à déclarer? Alors tu m'as parlé en cas avant travaux, tout ce qui est technique non courante, déclaration. En cas de sinistre, est-ce qu'il y a des choses à penser à déclarer? Est-ce que, je ne sais pas s'il y a, on peut prendre un exemple de cas d'usage et puis se dire peut-être de partir de ça.
Alors, est-ce qu'il y a des choses déjà pour un particulier? Il faut déclarer tout de suite. Parfois, on se dit qu'il faut pas déclarer, enfin que ce n'est pas forcément nécessaire de déclarer. C'est pas du tout pour cacher quelque chose. Hein. Alors, je peux bien t'en parler parce que ça vient de m'arriver.
Ah bah.
dans mon précédent logement, j'ai eu un dégât des eaux qui n'était pas de mon fait, qui était lié à des travaux qui avaient été mal exécutés. J'ai pas déclaré le sinistre disant mais c'est pas moi parce que c'est l'entreprise qui a fait les travaux, j'ai réparé parce que je suis bricoleur et voilà, donc j'ai fait ce qu'il fallait, j'étais pas propriétaire de cette maison, j'étais locataire, et le propriétaire ou l'agence m'a dit attendez, là le parquet ça va pas, il y a une petite différence, montrez-moi la déclaration. Je dis j'ai pas fait de déclaration, alors que j'avais prévenu, hein, donc j'avais déclaré, je dirais, à l'agence, au propriétaire, ce
de
qui s'était passé.
De façon non officielle.
Exactement, mais pas auprès de ma compagnie d'assurance, estimant que c'était pas ça ne relevait pas de la responsabilité, de ma responsabilité, donc de ma compagnie d'assurance. Et ben, ils m'ont expliqué qu'il fallait que je subventionne la réparation du parquet. Voilà. Donc, mon premier conseil,
oui, déclarer.
Un sinistre, on déclare. Et on ouvre, en fait, le dossier. Et après, la compagnie d'assurance, elle fera, c'est son travail, finalement, d'établir les responsabilités de chacun, soit celle du souscripteur, soit d'une entreprise, soit d'un tiers, enfin, peu importe. Mm. Mais en tous les cas, c'est important de déclarer. C'est pas parce qu'on déclare que c'est mal ou que ça va nous coûter beaucoup de sous. Déclarer, c'est juste ouvrir juridiquement le litige et faire en sorte qu'il soit traité par la compagnie d'assurance. Donc, je dirais que ça, c'est le premier, premier point. Et ensuite, je pense qu'il faut éviter de réparer soi-même, hein, parce que ça peut.
Même si on est bricoleur.
Même si on est bricoleur. En fait, faut faire exactement l'inverse de tout ce que j'ai fait, parce que ça peut aggraver, ça peut provoquer d'autres sinistres. Voilà, il faut faire intervenir des sachants, des professionnels du secteur, et eux seront identifier réellement les causes du sinistre et du coup apporter les bonnes réponses. Voilà. Et après, alors là, je plaide pour ma paroisse, mais c'est, je pense que là, quelque part, l'action ou la responsabilité d'un consommateur ou d'un particulier, c'est d'essayer de faire pression sur la compagnie, sur l'entreprise, sur l'expert, pour l'inciter pour les inciter à préconiser ou à utiliser des matériaux en réemploi. On voit bien finalement que les grands changements dans la consommation sont toujours initiés par le consommateur. Quand on voit que un Yuka, le consommateur s'est emparé de Yuka et ça a pris une telle ampleur qu'ils ont réussi à faire changer des recettes de certains produits de l'agroalimentaire parce que ils étaient trop salés, trop sucrés, trop de matières grasses. Ça montre que le consommateur, quand il s'empare d'un sujet en masse, il a ce poids, ce levier pour faire changer les choses. Donc, si chaque souscripteur, chaque particulier souscripteur d'un contrat d'assurance à chaque fois préconise et fait pression pour exiger des matériaux de réemploi dans la réparation de son sinistre, je pense que très rapidement, l'industrie de l'assurance va modifier ses pratiques.
Oui, puis c'est surtout lui qui est finalement à la décision finale. Hein. Au final, le consommateur, c'est lui qui, à la fin, paye. C'est lui qui a aussi une voix à porter. Et comme tu dis, le cas du cas est un très bon exemple pour montrer les changements de consommation.
Exactement.
Est-ce que t'as d'autres idées ou comment on peut sensibiliser aussi ce grand public aux avantages des matériaux de réemploi dans la construction ? Est-ce qu'il y a des bonnes choses qui se font pour sensibiliser ce public-là ?
Dans le secteur de la construction ou dans tous les de manière générale ?
Alors on peut commencer par le secteur de la construction et on peut faire un petit aparté sur le domaine général pour finir cette question.
Alors, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps sur la méthode Bisou. T'as entendu parler de la méthode Bisou ?
oui, j'en ai parlé moi-même dans le podcast et sur Instagram.
je connaissais pas et je trouve ça super, bien. Ouais. Je ne vais pas la redétailler, mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir ça un peu comme prisme de réflexion quand on se lance dans des travaux ou dans des projets de rénovation. Voilà, ça permet de bien orienter et de bien prioriser ses achats. J'essaye. Je suis pas trop militant. Je suis pas en train de dire que si on fait pas du réemploi, on n'est pas bien, ou si on fait que du réemploi, on est mieux que les autres. Ce que je pense, c'est que il faut définir ça comme une manière de penser et une alternative qui est présente. dans le secteur, enfin, quand on fait un projet de construction, de réhabilitation, quelle que soit l'échelle, hein, une petite salle de bain, une petite toilette, une petite cuisine, on n'est pas obligé de faire une surélévation d'un étage pour que ça soit considéré comme des travaux. Les travaux, ça peut commencer, encore une fois, à une toute petite échelle. Je trouve que c'est intéressant toujours de se poser la question de, ah, est-ce que dans les travaux que je vais initier, il peut y
On peut
avoir
rappeler la
une...
méthode bisou, hein, avec
Ah
ça.
ben,
Ouais.
tu veux la rappeler ou je la rappelle? Vas-y, hein. Si tu la connais
Alors attends,
bien,
le B
mieux que
c'est
je suis sûr que tu...
besoin.
Ouais, B, c'est besoin.
Alors, tu vas me corriger si je me trompe.
Voilà,
Le B c'est
exactement.
besoin, le I c'est intérêt, l'intérêt pour soi, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Le S c'est... Ah, j'ai un trou sur
Semblable.
celui-là. Ouais,
Semblable.
si j'ai quelque chose de semblable chez moi.
Voilà. Donc,
Le
le O,
ouais.
origine.
Ah, j'ai. Ouais. Savoir d'où ça vient, d'où ça
Ça vient d'où
provient.
ça
Et
vient?
le
Est-ce que c'est en
U,
neuf? Est-ce que c'est
c'est
réemploi?
l'utilité.
Et voilà. Et le
Ouais.
U, c'est l'utilité. Exactement. Et ben, moi, je trouve que c'est une super méthode. Franchement, je suis archi fan. J'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et ben je me dis que voilà pour les travaux qu'on initie, se rappeler cette méthode-là, et dans le O d'origine, il y a justement, est-ce que je peux utiliser un matériau en réemploi, par exemple, plutôt que d'aller acheter du neuf. Mais avant ça, est-ce que j'ai pas ce matériau dans ma cave ou dans mon garage? C'est pour la partie semblable, parce que dans le bricolage, tout bricoleur ne jette rien, il est toujours un petit peu brocanteur, et donc il a toujours dans son garage des choses
Des
qui peuvent
chutes
être
de
réutilisées.
bois, des...
Exactement. Donc
Ouais, complètement.
je dirais que c'est très important d'avoir encore une fois cet état d'esprit en se disant, ok, je me lance dans quelque chose, ben je vais appliquer cette méthode bisou pour voir si tout ce que je m'apprête à acheter finalement est indispensable, parce que peut-être qu'il y a une partie qui peut l'être, mais pas le reste. Et encore une fois, je pense qu'il faut pas du tout opposer réemploi et achat du circuit classique, hein. Moi, je suis pas du tout en train de prôner ça. Je dis juste que si on intègre dans notre état d'esprit de prise de décision une petite brique réemploi, bah déjà on fait un super pas pour diminuer ce gaspillage et contribuer au mieux de notre planète. Donc allons-y.
Complètement. Très beau lancement, j'aime beaucoup. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur le sujet qu'on n'aurait pas discuté, que j'aurais oublié de te demander?
Moi, je pense qu'on a fait un bon tour. On a fait un bon tour sur le réemploi et sur les pratiques d'assurance. Je le redis parce que je suis assez convaincu de ça. Il faut absolument que le souscripteur pose des questions, stimule, relance la compagnie d'assurance sur ce sujet. C'est par leurs questionnements, leurs actions et leurs sollicitations que les compagnies d'assurance vont modifier leur offre. Moi, je pense qu'on est au tout début et que dans quelques années, ça sera une pratique usuelle de recourir à du réemploi dans la réparation de sinistres. Et encore une fois, il ne faut pas avoir peur quand on est même si la réparation d'un sinistre et toute cette gestion du sinistre, c'est pas le moment le plus heureux, parfois même il peut être un peu douloureux. Faut pas avoir peur d'employer un matériau de réemploi. Il y a aucun risque. Encore une fois, c'est une compagnie d'assurance qui le proposera. Donc il y a pas de différence dans la réparation du sinistre à utiliser un matériau issu du réemploi d'un matériau issu du circuit classique.
Ok, c'est vraiment même combat quoi, même
Exactement.
usage surtout et qualité. Trop bien. Et ben écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ce que je te propose, c'est de passer directement à la phase action.
Ok, allons-y alors, c'est quoi la phase action?
Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Ubercaille. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Aubercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Nos auditeurs, ils ont eu un sinistre. On vient de passer la deux grosses tempêtes en France d'ailleurs. Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Une première question à se poser, une première démarche à faire, quelque chose d'hyper concret.
Alors moi, je dirais que la première chose à faire quand on subit un sinistre comme ça, c'est la mise en sécurité du sinistre. C'est-à-dire que là, par exemple, en Bretagne, il y a eu une énorme tempête, comme tu disais. Je crois qu'il y a eu beaucoup de toits qui ont été un peu mis à mal, certains même arrachés. Donc la première chose, c'est qu'il faut mettre en sécurité le sinistre, parce que si on ne met pas en sécurité le sinistre va s'aggraver. Si on ne protège pas rapidement sa toiture, là c'est un dégât des eaux garanti à tous les étages de la maison. Donc la première chose, c'est de mettre en sécurité le sinistre. Évidemment, on peut pas toujours le faire soi-même, hein, donc je le redis, il y a des professionnels dont c'est le métier, donc c'est tout de suite solliciter un professionnel pour pouvoir mettre en sécurité le sinistre. Et je dirais que ça, c'est la priorité des priorités avant même de faire des démarches auprès de sa compagnie d'assurance. D'abord, on sécurise le sinistre, c'est le point clé. Tout assureur te dira ça, c'est vraiment la règle numéro un. Une fois que le sinistre est sécurisé, donc ça veut dire qu'il ne va pas empirer, on peut démarrer la gestion du règlement du sinistre. Donc évidemment, normalement, on a une assurance habitation. Je dis bien normalement, mais
normalement.
Je répète, c'est très très important. J'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est très important de souscrire une assurance habitation, parce que si on n'en a pas là, ça peut vraiment devenir problématique. Pour les locataires, c'est obligatoire. Pour les propriétaires aussi, mais il se peut que certains ne souscrivent pas. Mais voilà. Je le redis, c'est hyper important d'avoir une assurance. Et une fois que le sinistre est donc mis en sécurité, c'est appeler sa compagnie d'assurance pour démarrer le traitement du règlement du sinistre. En général, il y a un expert qui va venir sur place et qui va commencer à évaluer les dégâts et surtout ce qu'il va falloir refaire pour remettre la maison à l'état d'usage identique. Après, en fonction des contrats, ça peut être remise en état neuf, remis en usage identique. Bon, ça dépend. Mais là encore, faut faire confiance aux experts et à la compagnie d'assurance pour le règlement du sinistre. Si on a un doute, il y a des médiateurs. Il y a des organismes qui sont là pour accompagner le lésé. Généralement, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le traitement de son sinistre. Mais moi, je dirais que la plupart du temps, ça se règle bien. J'ai eu accès à quelques stats des compagnies d'assurance justement sur ce sujet. Et ce que j'ai découvert, j'étais hyper étonné. Il y a 30% des sinistres qui sont payés aux souscripteurs, mais dont les travaux ne sont pas réalisés, en fait.
Réalisés.
Donc les gens prennent le dédommagement, la prise en charge,
mais ne font pas.
Exactement. Donc voilà, c'est intéressant parce que ça montre aussi que tout n'est pas forcément blanc-noir, quoi, dans la gestion des sinistres. Mais je le redis, première chose, on met en sécurité. Ça, c'est vraiment. C'est vraiment la clé.
Je vais aller un tout petit peu plus loin du coup dans la question. Et si donc moi il m'arrivait un sinistre, pareil, j'ai ma toiture qui s'est envolée, j'en sais rien. Enfin bref, il s'est passé quelque chose. Je vais utiliser absolument des matériaux de réemploi. Donc j'ai déclaré, il y a des experts qui sont passés. Est-ce que je dois avertir les experts en disant écoutez, moi ce sera forcément en réemploi, ou est-ce que j'ai pas le choix et ce sera suivi Est-ce que tu sais ?
Alors il y a ce que j'aimerais. Ce que je souhaiterais, et puis il y a la réalité. Aujourd'hui, Comme je te l'ai dit, on est engagé dans un processus de transformation, mais il n'y a aucune obligation. Donc, l'ensemble des acteurs de la chaîne de la réparation ou la gestion du sinistre, l'assureur, l'économiste, l'expert, l'entreprise, donc c'est en général les quatre qui vont intervenir pour te remettre un toit sur la tête, eux, ils sont pas nécessairement tenus par l'obligation d'utiliser des matériaux de réemploi. Toi, le lésé, tu vas dire, moi, je veux un toit. Bien évidemment, tu vas pouvoir dire, parce que tu as des convictions fortes, bah, je veux en priorité que mes matériaux,
Que
enfin,
soit fait
que les
un
matériaux soient faits en matériaux issus du réemploi. Bon, l'entreprise, elle peut te dire, bah, moi, vous savez, Madame Caroline, moi, j'ai pas trouvé de matériaux issus du réemploi. Donc, soit j'ai ça, c'est neuf, soit on répare pas votre toit. Et là, tu vas te retrouver dans une situation pas forcément évidente, où, comme très souvent, parce qu'on est tous comme ça, bah, entre nos convictions et le principe de réalité, il y a un moment, il faut choisir, et tu choisiras le principe de réalité, et c'est normal. Et parce qu'il n'y a pas d'obligation. Si on arrive justement à mettre des obligations dans ce parcours de réparation suite à sinistre, là, effectivement, ce sera, il y aura plus de débat. Et les différentes parties prenantes seront tenues d'aller sourcer, identifier et mettre en œuvre des produits issus du réemploi. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc ça ne peut reposer que sur la motivation, la bonne intelligence, la conviction des parties prenantes, mais pas sur une obligation. Mais c'est pas parce que je dis ça qu'il faut surtout pas le dire et le demander, parce qu'encore une fois,
Faut essayer.
c'est en stimulant ces différents acteurs avec ce type de demande, que ça va accélérer, que l'on va accélérer la transformation des pratiques.
Donc le mot de la fin, c'est allez-y, demandez quand même.
Mais bien sûr,
Et puis
toujours.
au moins, il y aura une sensibilisation, quoi.
Si on ne demande
Ok, trop
pas,
bien.
on n'a pas. Donc, bien sûr, il faut demander.
Tout à fait. Exactement, ça commence par ça. Question plus personnelle. Dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi pour toi ton berca idéal?
Alors, mon bercail idéal, pour moi, ça serait un chalet perdu au milieu de la montagne, un chalet qui est passif en énergie, donc il s'autosuffit. Ça serait de fonctionner dans mon quotidien que en circuit court avec les producteurs locaux. Ça serait rénover ce chalet avec des matériaux issus du réemploi. Ça serait avoir toute ma collection de BD pour pouvoir lire mes BD au coin du feu, mais avec une connexion Internet.
Oui, faut quand même pas tout couper.
Exactement.
Ok,
Ça serait mon
trop
bercail
bien.
idéal.
Si t'avais un mot, du coup, pour le définir, ce serait quoi? Justin.
Gazouiller. J'adore ce mot. J'adore ce mot. J'adore l'idée des oiseaux qui chantent autour de moi quand je suis perdu dans la montagne.
Ok, très bien. Ce sera une première pour ce mot, donc trop bien. Est-ce que tu as des sources, des newsletters, des chaînes, des livres, des personnes à suivre pour se renseigner sur le sujet du réemploi, des assurances, de tout ce qu'on vient de discuter?
Alors, j'ai des sources pour ce qui est sur les assurances, les garanties. Il y a pas mal de choses sur l'ADEME, donc j'encourage. C'est très bien fait le site de l'ADEME, et il y a beaucoup de choses. Et en général, les sources sont bien vérifiées. Nous, on a fait quelques articles sur notre blog, donc je cite notre source, mais je trouve que là aussi c'est bien fait. Après, sur le sujet un peu plus large. Parce que les assurances, c'est une petite partie du sujet global du réemploi. Moi, dans les livres là qui m'ont bien plu, que je recommanderais, c'est un livre qui s'appelle Change ton monde de Cédric Héroux. Je trouve que c'est un super livre sur bah, l'action individuelle, la prise de conscience et voilà la possibilité, quand on est animé par des convictions, de faire changer les choses. À grande échelle. Puis c'est ce qu'il a fait avec l'accueil de migrants dans la vallée de la Roya, dans le pays niçois. C'est un super livre. très, très humble. Et je trouve que ça illustre bien, encore une fois, la possibilité d'avoir des vraies actions individuelles qui peuvent produire des grands effets. Donc je recommande ce livre. Et dans les personnes qui m'inspirent, mais ce n'est pas forcément que sur leur emploi, c'est qui m'inspire en général, moi je recommande d'aller lire des écrits de Amanda Gorman. C'est une poétesse américaine. Elle a un compte Instagram et je trouve que un petit poème de temps en temps, bah, ça fait du bien. C'est les petits bonbons comme ça qui font réfléchir, des petites capsules. Je trouve que ça apaise et ça redonne un peu d'énergie. Parfois, on en a besoin vu tous les challenges qui nous attendent. Donc, ça permet d'être un peu
Complètement.
de prendre un peu d'inspiration.
Trop bien. J'irai suivre, je connais pas du tout. J'irai voir ça juste après. Trop bien. Merci beaucoup. Merci Romain pour ce moment. C'était trop chouette de faire le tour de ça. C'était un sujet qu'on n'avait pas encore évoqué dans le réemploi. Donc c'était important de le mettre en avant. Où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver si on a envie de suivre bah, déjà Stock Pro, te suivre un peu ton travail, etc.
Alors, pour contacter Stock Pro, il faut aller sur notre site internet www.stock-pro.fr. Ça, c'est pour voir tout ce qu'on fait, nos offres, etc. Là, vous pourrez avoir accès à plus d'un million de produits en réemploi. Donc, pour ceux qui ont des sinistres ou pas, d'ailleurs, il y a plein
Oui.
de produits à découvrir. Et pour me contacter par LinkedIn, c'est là où je suis. Le plus facilement joignable ou par mail, très simple, hein. Mon adresse c'est romain@stock-pro.fr. Donc moi je réponds toujours, quelles que soient les demandes. Je trouve qu'on avance grâce aux rencontres et aux échanges qu'on peut avoir. Donc je suis toujours ouvert à une bonne discussion et un bon échange. Ça permet encore une fois de s'oxygéner et puis d'apprendre, parce que finalement c'est ça qui nous fait avancer.
C'est ça la quête, complètement. Merci beaucoup Romain, merci à toi pour ce
Merci
passage.
Caroline. Ben, c'était mon premier podcast. C'était très sympa. Merci aussi pour cette
Et
discussion.
bah, trop chouette. Et puis j'ai plus qu'à dire à tous nos auditeurs, à très bientôt dans vos bercailles. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. C'est l'heure du bilan. Voici les trois choses principales à retenir. Si j'avais trois choses à retenir, ce serait que les matériaux de réemploi offrent des avantages considérables, notamment sur la disponibilité immédiate, des coûts réduits par rapport aux matériaux neufs et sur les enjeux environnementaux. Il s'agit d'une option viable pour réduire les coûts de construction en cas de sinistre. Il faut notamment faire attention à tout ce qui est date de garantie, date de péremption, vérifier les normes CE, NF, etc. Ensuite, les particuliers ont aussi un rôle essentiel à jouer en demandant à leur compagnie d'assurance d'utiliser des matériaux de réemploi pour réparer les sinistres. Cette démarche contribuera à changer les pratiques de l'industrie de l'assurance et à promouvoir le réemploi dans la construction. Enfin, on l'avait déjà évoqué dans la décoration responsable avec Coralie, mais l'approche bisou, besoin, intérêt, semblable, origine et utilité, peut guider les particuliers dans l'utilisation de matériaux de réemploi pour leurs projets de rénovation. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier appel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez, viens, construisons au bercail ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.